France Inter.
France Inter, il est 19h. Le journal, Éric Delvaux.
Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, cette fragile fin de guerre qui se dessine à Gaza. Parmi les 20 points du plan Trump, quelques chapitres restent encore à discuter. Ça fera l'objet de négociations indirectes qui s'ouvriront demain au Caire entre le Hamas et Israël. Les Américains viendront en force, nous dira Étienne Monin. Et nous entendrons quelques témoignages de Gazaouis qui n'osent croire cette fois encore en une paix durable. À la une également des renforts de CRS à Nice après la fusillade qui a fait 2 morts et 5 blessés. Parmi les victimes, plusieurs n'auraient aucun lien avec le milieu. La tempête Emmy qui s'est abattue cet après-midi a fait 2 morts, l'un à Étretat en Seine-Maritime, l'autre dans l'Aisne. Et puis nous irons lire des livres à Concarneau, c'est l'une des nombreuses villes à accueillir ce week-end l'opération Bibli en fête. Et puis le temps de demain dimanche, Céline Dacosta avec le retour d'un ciel bien plus calme.
Oui, et plus sec également avec le retour du soleil quasiment partout.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Comment parler de paix à Gaza alors que les bombardements israéliens ne se sont pas tus aujourd'hui sur la ville? Israël appelant même les Gazaouis à surtout ne pas revenir. Et pourtant, des négociations indirectes entre le Hamas et Israël vont débuter demain en Égypte pour mettre au point la libération des otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens et envisager aussi la fin de la guerre sur la base du plan de Donald Trump. On va en reparler dans un instant avec Étienne Monin. Voyons d'abord comment la population gazaoui appréhende cette nouvelle séquence. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
En ligne de Jérusalem, la population de Gaza est donc partagée entre l'espoir de paix et la crainte de perdre leur terre à jamais.
Il était 23h hier à Gaza quand la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le Hamas acceptait de libérer tous les otages et ouvrait donc la porte à une résolution négociée de la guerre. Inès vit sous une tente dans le quartier d'Al-Sabra, c'est à l'ouest de la ville de Gaza. Elle est en ligne avec la journaliste Ferial Abdou.
Les gens ont beaucoup réagi. Nous étions heureux. Nous avons applaudi, sifflé, crié. Nous avons de l'espoir.
Espoir cependant mesuré, car depuis 2 ans, 2 trêves ont déjà abouti à la reprise des hostilités. La deuxième fois, c'était en mars dernier, et Israël a rompu unilatéralement le cessez-le-feu. C'est ce que rappelle Shaer au micro de Rami Al-Maghari.
La réponse finale du Hamas doit cocher un certain nombre de cases. Nous devons savoir ce qui sera reconstruit et de quelle aide nous pourrons bénéficier. Sinon, ça recommencera comme après le dernier cessez-le-feu. C'est peut-être même encore une fois un piège et nous allons encore en payer le prix. On ne peut vraiment pas faire confiance aux Israéliens.
Des négociations doivent commencer demain en Égypte. Preuve de leur importance, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner devraient y participer. Thibault Lefebvre, Jérusalem, France Inter.
Voilà, Thibault vient de le préciser, des négociations indirectes vont donc débuter demain entre le Hamas et Israël. Ce sera bien au Caire, en Égypte, pour concrétiser la libération des otages et aussi envisager la fin de la guerre sur la base du plan de Donald Trump. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Rédaction internationale de Radio France. Le Hamas aimerait bien détricoter certaines mesures du plan de Trump, mais les Américains viendront en force à partir de demain pour mieux faire pression. Et Donald Trump, habitué à bomber le torse, vient de prévenir le Hamas. Il ne tolérera, dit-il, aucun retard.
Parce que cette étape en Égypte va rallonger forcément le calendrier initial. Les libérations devaient avoir lieu 3 jours après l'acceptation du plan. Le président américain avait dit « Attention, la ligne, ce sera dimanche soir ». Or, on entre seulement demain dans un cycle de négociations. Le président américain tente donc, semble-t-il, de maintenir la pression sur le Hamas pour éviter un enlisement du processus. Il envoie aussi, Thibault Lefebvre le disait, une délégation américaine de poids. On attend donc 2 très proches de Donald Trump, son gendre, son ami proche. Ces discussions doivent permettre d'aborder des points qui vont permettre derrière la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Les délégations devraient aborder la question de l'étendue du retrait de l'armée israélienne, de la démilitarisation militarisation du Hamas et de l'identité des prisonniers palestiniens. Ces négociations seront indirectes. Elles pourraient durer demain et après-demain, d'après des sources égyptiennes. Elles auront lieu entre les représentants du Hamas et une délégation israélienne qui comprend un ministre très proche de Benjamin Netanyahou, ce qui n'est pas fréquent pour ce genre de discussion.
Étienne Monard, rédaction internationale de Radio France. En Italie comme en Espagne, la mobilisation pour Gaza ne faiblit pas. À Rome aujourd'hui, ils étaient encore plusieurs centaines de milliers à s'en prendre à la politique du gouvernement italien, accusé de soutenir aveuglément Israël. Les manifestants ont aussi dénoncé le mépris qu'ils ressentent de la part de Giorgia Meloni. Dans les rues de Rome, reportage de notre correspondant Bruno Duvic.
Au point de départ de la manifestation, Marika, franco-italienne, montre la foule rassemblée.
Vous voyez, tout le monde est là.
Elle est venue avec son mari et son petit garçon.
Il doit le savoir tout petit qu'il faut se battre pour les droits de nous-mêmes, mais même pour les autres.
Dans le cortège, beaucoup de jeunes, dont Maya, 18 ans, Gaza est la première cause pour laquelle elle descend dans la rue.
Si j'étais dans la situation des Palestiniens, je voudrais que quelqu'un manifeste pour moi, se mobilise, quel que soit le pays, pour me sentir moins seule dans mon désespoir.
Le plan Trump ne convainc pas les manifestants, comme Sandra.
Non, absolument.
Non, pas du tout. Le plan Trump, c'est une nouvelle forme de colonialisme. Les Palestiniens sont exclus.
Dix jours que les défilés se multiplient dans le pays, Giorgia Meloni accuse les manifestants d'être avant tout dans un combat de gauche contre elle. Réponse de Giovanni.
C'est important d'être nombreux pour envoyer un signal fort, d'abord au peuple palestinien. Les Italiens sont de leur côté. Et puis pour crier à la face de ce gouvernement totalement sourd qu'il y a une grande partie du pays qui refuse ce qui se passe à Gaza.
Les manifestants lui demandent notamment de reconnaître à son tour l'État palestinien.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome, rassemblement pro-palestinien également en Angleterre, notamment à Londres, malgré les appels du gouvernement et de la police à ne pas manifester deux jours après une attaque qui a fait 2 morts, 3 blessés devant une synagogue, c'était à Manchester. Un eurosceptique en tête des élections législatives en République tchèque, les résultats définitifs seront connus dans quelques heures, peut-être quelques minutes. Andrej Babiš, milliardaire autoproclamé trumpiste, a fait campagne en affirmant vouloir défendre les intérêts des Tchèques avant ceux de l'Europe.
France Inter, Éric Delvaux.
Avant la météo, dans moins de 10 minutes, notez que 6 départements des Hauts-de-France, plus celui de la Seine-Maritime, ont été placés cet après-midi en vigilance orange en raison des fortes rafales de vent liées à la tempête Emmy. Il y a d'ailleurs 1 mort dans l'Aisne, une branche d'arbre tombée sur sa voiture, 1 autre mort à Étretat, car la tempête a empêché un hélicoptère d'élitreuiller un nageur en perdition. Et ce nageur est mort, noyé donc, Noah Marché.
Les secours sont appelés un peu après 9h ce matin. 2 hommes sont allés se baigner mais se retrouvent en difficulté une fois au large. Le premier, un jeune de 18 ans, arrive à rejoindre la plage. Mais ça n'est pas le cas du second, âgé de 48 ans. L'hélicoptère de la sécurité civile le repère et tente plusieurs fois de le sauver. En vain, les conditions météo sont trop mauvaises pour atteindre la victime. Même constat pour les sauveteurs aquatiques, sapeurs-pompiers et les sauveteurs en mer. Impossible de partir le chercher en bateau. Le corps de cet homme a pu être récupéré seulement dans l'après-midi, vers 16h, au moment de la marée basse. Il est alors déclaré mort et laissé à la gendarmerie.
Et à cause de cette tempête Emmy en Normandie, il y avait 2000 clients privés d'électricité aujourd'hui à la mi-journée. Perturbation également jusque dans Lyon, en Bourgogne, qui était pourtant en vigilance jaune aujourd'hui. Des renforts de CRS sont arrivés à Nice après la fusillade qui a fait 2 morts et 5 blessés hier dans un quartier sensible, le quartier des Moulins. Enquête qui évoque certes le milieu du narco-banditisme, mais plusieurs victimes n'auraient aucun lien avec le milieu, Sébastien Riglet.
Oui, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les 2 personnes décédées sont 2 hommes âgés de 59 et 20 ans. Il y a également 5 blessés, dont 2 mineurs. Et parmi toutes ces victimes, il y en a donc qui n'ont aucun lien avec le trafic de stupéfiants. Elles se trouvaient sur cette place des Amaryllis au mauvais moment. Les assaillants sont toujours recherchés. Une voiture correspondante à celle utilisée par les tireurs a été découverte incendiée 25 km plus loin sur la commune de Mougins. Le véhicule avait été volé à Marseille quelques jours plus tôt et porté de fausses plaques d'immatriculation. sur les lieux du drame. Les enquêteurs ont également retrouvé 25 douilles de Kalachnikov et 5 douilles de calibre 9 mm. Des renforts policiers ont été déployés dans le quartier sur décision du ministre de l'Intérieur.
Et réaction politique. Éric Ciotti, candidat aux prochaines municipales à Nice, dénonce la politique sécuritaire de l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi. La rentrée politique de Raphaël Glucksmann ce week-end, ça se passe à l'Aréole, c'est en Gironde. Le patron de Place Publique n'a pas encore réussi à fédérer derrière lui une grande force social-démocrate. Et à moins de 6 mois des municipales, à 3 jours de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, la gauche réunie aujourd'hui à l'Aréole ne s'est pas montrée très enthousiaste envers les premières pistes budgétaires de Matignon, Elia Bergel.
Oui, à commencer par la tête d'affiche du jour, Raphaël Glucksmann, pas convaincu du tout par la taxe sur le patrimoine financier que propose le Premier ministre.
Une taxe à 1 milliard, 1,5 milliard, c'est totalement insuffisant et ça ne répond pas à la demande profonde du peuple français.
La gauche défend, elle, la taxe Zucman sur les plus riches, 15 milliards d'euros de rendement selon les estimations du PS. Ici à l'Aréole, tous les militants en place publique sont sur la même longueur d'onde. Sébastien Lecornu ne fait pas assez de concessions.
Sur les réelles propositions qu'il fait au niveau budgétaire, c'est pas une rupture avec les politiques macronistes et avec le budget de François Bayrou.
La question maintenant, c'est que doit faire la gauche la semaine prochaine, voter ou pas la censure dans la foulée de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Il faut juger sur pièce, estiment ces deux militants.
Attendons voir les propositions du Premier ministre et on prendra nos responsabilités à ce moment-là.
Il faut quand même des gestes qui, on va dire, rentrent dans les revendications, on va dire, de Place Publique et de la gauche en général. Hein.
Pour eux, Sébastien Lecornu doit faire des gestes forts sur le pouvoir d'achat et la réforme des retraites.
Élie Abergel à la rentrée politique de Raphaël Glucksmann à l'Aréole en Gironde. Et alors que la composition du futur gouvernement pourrait être annoncée dans les prochaines heures, voilà un ministre sortant qui ne fera pas partie de la prochaine équipe, c'est François Rebsamen, ministre sortant de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Il annonce qu'il n'en sera pas, compte tenu, dit-il, de ses convictions d'homme de gauche et son souhait de justice fiscale et social. Quant aux Républicains, eh bien, tout se décidera ce soir sur une participation ou non au prochain gouvernement après une ultime réunion des LR. Les championnats d'Europe de cyclisme sur route, les équipes féminines étaient en selle cet après-midi. 116 km sur les routes ardéchoises. On espérait les Françaises, mais c'est finalement une Néerlandaise qui est arrivée en tête. Demi Wörling, a sacré championne d'Europe, donc après une échappée en solitaire de 38 km. Faire démentir les chiffres qui disent que les Français lisent de moins en moins et qu'ils passent de plus en plus de temps devant leurs écrans. C'est le but de l'opération Bibli en folie. Tout ce week-end, un peu partout en France, initié par le ministère de la Culture, Bibli en folie veut attirer de nouveaux lecteurs dans les bibliothèques et les médiathèques. Plus de 2000 animations sont organisées sur le territoire dans 15 500 établissements. C'est le cas notamment à la nouvelle médiathèque d'Argenteuil, c'est dans le Val d'Oise. Après 2 ans et demi de travaux, cette médiathèque a été inaugurée il y a une semaine. Et bonne nouvelle, elle fait déjà le plein tous les jours, Clémentine Sabrier.
Il y a des enfants dans toutes les allées de la médiathèque flambant neuve. Certains participent au quiz intergénérationnel sur la ville d'Argenteuil. Chez les élèves de primaire, la gagnante est...
Asia Megahani. Ah.
C'était compliqué ?
Oui, quand même. La dernière question, combien il y a de livres dans la médiathèque ?
Et toi, t'avais mis combien ?
5 550.
Et en fait, il y en a combien ?
40 000.
Assez pour que tout le monde trouve son bonheur. Sarah, 10 ans, passe tous les jours depuis l'ouverture.
Je trouve qu'elle est vraiment mieux qu'avant. Elle est plus grande, il y a plus d'espace, il y a plus de gens. C'est mieux, il y a plus de livres, il y a plus de choses.
Un véritable poumon culturel pour le quartier, selon Hakim, un médiateur.
On a beaucoup de services publics qui ont fermé, la poste, des magasins. Et donc d'avoir un nouvel espace pour les habitants d'Argenteuil, ils se sentent considérés, valorisés, ça patrouille. Franchement, qu'on voit tous les enfants, c'est magique.
Et l'opération Bibli en folie permet d'attirer encore plus de monde. Karine Rangan gère toutes les médiathèques de la ville.
Ça nous donne un éclairage, une ouverture vers plus de public que ce que nous, on rayonne d'habitude, en fait. Et ça, c'est intéressant.
Depuis l'inauguration, il y a une semaine, des centaines de personnes s'inscrivent à la nouvelle médiathèque chaque jour et beaucoup repartent avec un ou plusieurs livres.
Bibli en folie, donc, sous tout ce week-end sur le territoire pour attirer les Français et les jeunes en particulier dans les bibliothèques et autres médiathèques. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe,
Découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain ce sera plus calme, même s'il restera encore quelques averses. Hein.
Oui, finalement c'est le reste de la perturbation d'aujourd'hui qui va s'évacuer. On aura des averses sur les Pyrénées et près des frontières de l'Est, sur le Jura et les Vosges surtout. On aura également de la neige sur les Alpes du Nord dès 1500 mètres. Mais partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Avec encore du vent sur la moitié nord, le soleil sera tout de même un petit peu plus franc du massif central aux côtes méditerranéennes, avec du Mistral, de la Tramontane qui vont bien souffler. Le soleil brillera également sur la Corse.
Concernant les températures, on peut dire que l'ambiance se rafraîchit un peu?
Oui, ça baisse après le passage de la perturbation. Les minimales iront de 8 à 12 degrés du nord au sud demain matin, un petit peu plus près de la Méditerranée, 13 à 16 degrés. Pour les maximales, elles ne dépasseront pas 13 à 17 degrés sur le nord et sur l'est du pays. Elles iront de 17 à 20 degrés de l'ouest au sud-est, avec des pointes encore entre 21 et 26 degrés près de la Méditerranée.
Les prévisions de Céline Dacosta.